Vous êtes sur RTL.
RTL Grand Soir, Arnaud Touche.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Grand Soir. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Et à la une ce soir, des tensions entre le Sénat et l'exécutif. Les sénateurs ont décidé de transmettre à la justice les cas d'Alexandre Benalla, de Vincent Crase et de trois proches du président de la République. La majorité parle d'un procès politique. Le Sénat répond contre-pouvoir. Et nous en parlerons à 22h15 avec François Patriat, le chef de file du groupe La République En Marche au Sénat. Un nouveau week-end test pour le gouvernement à deux jours du 19e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur a passé des consignes cet après-midi très fermes aux policiers. Détox, antioxydants ou encore bon pour la santé, une ONG met en lumière les arguments marketing utilisés par certaines marques alors qu'ils sont tout simplement mensongers. Et enfin, J-1 avant France-Moldavie pour l'Euro 2020, Didier Deschamps ne veut pas que l'équipe de France se repose sur ses lauriers de champion du monde. À la fin du journal, l'actualité sort de la bouche des ados. Ils nous diront ce qu'ils pensent du documentaire Choc sur Michael Jackson diffusé en ce moment même sur M6. Le Mac de l'écho ce soir avec les chiffres des ventes de bières sans alcool. Ils sont en forte hausse. Marie Guerrier vous expliquera pourquoi. Et enfin, juste avant 22h30, on recevra Laurie Tillman. L'ancienne Miss France se mobilise avec l'UNICEF pour la nuit de l'eau. Ce sera samedi dans plus de 200 piscines françaises pour venir en aide aux enfants d'Haïti. RTL Grand Soir, c'est toute l'actualité à tête reposée et ça commence maintenant.
RTL Grand Soir, Arnaud Touche.
La tension n'a jamais été aussi palpable entre le Sénat et l'Élysée. Les sénateurs ont donc décidé ce matin de renvoyer trois proches du président de la République devant la justice. Tout d'abord Alexandre Benalla et Vincent Crase pour suspicion de faux témoignages. Mais les sénateurs vont plus loin. Trois personnages donc de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron seront donc entendus par des juges. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, le directeur de cabinet du président, Patrick Strauda, et le chef de la sécurité, Lionel Lavergne. Une nouvelle qui n'a pas du tout plu à l'Élysée, Dominique Tenza.
Oui, les sénateurs n'imaginaient sans doute pas la secousse politique qu'allait provoquer leur vote. Et c'est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui le premier dégaine la riposte.
À l'issue de cette procédure, les masques tombent. On est dans une instrumentalisation à des fins politiques. C'est politiquement bas et moralement grave.
Un acte politique, voilà la ligne de défense reprise par tous les responsables de la majorité. Le premier d'entre eux, Édouard Philippe, décide même en représailles de boycotter la séance de questions au Sénat. On n'avait pas vu ça depuis Jospin en 98.
Ma question s'adressait au Premier ministre.
Il est où, hurlent les sénateurs dans une atmosphère électrique, alors qu'au même moment, c'est le patron de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui annonce boycotter à son tour une conférence prévue demain avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Attitude incompréhensible pour le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur.
C'est pas de la faute au Sénat s'il y a eu tous les dysfonctionnements induits et si on les a laissés faire. C'est pas la faute au Sénat si de hauts personnages ont menti.
Par souci d'apaisement, Gérard Larcher devra expliquer dans un communiqué qu'il ne veut déclarer la guerre à personne, même si en coulisses, l'ancien monde savoure sa revanche.
Alors le parti au pouvoir et le gouvernement parlent d'un procès politique et critiquent cette décision prise par les sénateurs. Éric Bocquet, par exemple, sénateur communiste, pense tout le contraire.
On n'a pas voté ce matin la décapitation de Louis XVI. J'imagine que ça doit gêner un peu, mais le Sénat a réaffirmé son indépendance, sa souveraineté, son autonomie, et c'est une bonne chose dans cette République où les débats ont lieu sur le parlementarisme, sur le bicamérisme. Je crois que c'était un rendez-vous à ne pas manquer.
Alors Dominique Tenza, je me retourne à nouveau vers vous. Désormais, on attend de savoir ce qu'en pense Emmanuel Macron.
Oui, et pour l'instant, pas un mot. Emmanuel Macron, qui est à Bruxelles, s'est contenté de parler Brexit. Officiellement, l'Élysée ne commande pas cette décision du Sénat. Même si, vous l'aurez compris, l'ensemble de la majorité fait le boulot à sa place. Dans son entourage, on s'agace néanmoins, et c'est peu de le dire, de voir la gauche et la droite au Sénat, main dans la main, pour plomber le président. Il y a même une forme de plaisir chez certains sénateurs, se désole un conseiller.
Les précisions de Dominique Tenza du service politique de RTL. Et pour aller plus loin sur cette crise au sein du pouvoir, nous serons à 22h15 avec François Patriat, le chef de file du groupe La République En Marche au Sénat. Emmanuel Macron réunira mardi matin à l'Élysée le président chinois, la chancelière allemande et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour parler commerce et climat. Les Européens veulent trouver des points de convergence entre l'Europe et la Chine, notamment sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. Samedi, les Gilets jaunes vont se mobiliser pour le 19e week-end consécutif. Christophe Castaner a demandé une impunité zéro au nouveau préfet de police de Paris qui a pris ses fonctions aujourd'hui. Le but est d'éviter de revoir les pillages et la casse sur les Champs-Élysées comme la semaine dernière. Et le ministre de l'Intérieur a reçu les syndicats de police dans son bureau, Olivier Bois. Il en a profité pour passer quelques consignes.
Oui, le message, il est resté celui qu'on a entendu cette semaine, résumé d'une phrase. Faire à peu près exactement le contraire de ce qui a été fait le week-end dernier. Les ordres n'avaient pas été bons et trop lents. Eh bien, samedi, il y aura un commandement unique sous le contrôle du nouveau préfet de police et avec plus d'autonomie donnée aux chefs opérationnels qui seront sur le terrain. En cas de manifestation interdite, la consigne est claire. Intervenir tout de suite pour verbaliser, pour disperser les premiers manifestants. Être réactif pour aller sur les points chauds. Aller au contact pour interpeller en flagrant délit les casseurs. Les militaires de Sentinelle ne seront pas là pour faire face aux manifestants, mais ils vont s'occuper de la surveillance d'un certain nombre de sites, ce qui va permettre de libérer des policiers, des gendarmes qui, eux, pour le coup, seront sur le terrain. Enfin, sur le matériel à la disposition des forces de l'ordre, les LBD longue distance, c'est-à-dire les plus puissants, seront à nouveau plus systématiquement utilisés, sachant que pour le moment, précisons-le, les appels à manifester à Paris samedi sont moins nombreux que la semaine dernière.
Les précisions d'Olivier Bois pour RTL, à savoir également que le nouveau dispositif pour les Gilets jaunes sera présenté demain matin à 9h au ministère de l'Intérieur. Christophe Détinger, par ailleurs, le boxeur des Gilets jaunes, a été suspendu de ses fonctions à la mairie d'Arpajon. Il est donc au chômage. Il vit actuellement en semi-liberté après sa condamnation à un an de prison pour avoir frappé deux gendarmes lors de l'acte 8 des Gilets jaunes à Paris. Le Conseil constitutionnel juge correct les examens osseux réalisés pour déterminer l'âge des jeunes migrants. Les sages ont reconnu que ces examens peuvent comporter une marge d'erreur significative, mais ils ont aussi jugé que la loi prévoyait suffisamment de garanties.
RTL Grand Soir.
Arnaud Touche.
Cette fois-ci, il a bien tiré le gros lot, mais il a été rattrapé par le fisc. Un Mosellan a organisé plus de 150 lotos dans la région entre 2012 et 2015. L'occasion pour lui de faire du bénéfice lors de chaque nouvel événement, quelques centaines d'euros par-ci par-là. Mais celui-ci n'a pas jugé utile de déclarer son chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est donc sans surprise que le percepteur s'est intéressé à son cas et lui demande désormais de rendre l'argent, Samuel Gauchet.
2 millions d'euros, et oui, plus une série d'amendes, sans compter un an de prison avec sursis, car si ce quinquagénaire était bien déclaré comme auto-entrepreneur et payait scrupuleusement ses cotisations sociales, il n'a pas déclaré comme il faut les sommes jouées presque chaque week-end par des centaines de personnes dans des villages autour de Sarrebourg. Maître Delphine Bouxer l'a assisté lors de son procès.
Il faut faire une déclaration préalable aux douanes pour être imposé justement sur les recettes perçues au titre des lotos, parce que l'État veut percevoir ces sommes qui sont très juteuses apparemment.
Et quel est le taux ?
Le taux est de 70% sur les recettes perçues, donc sur tout ce que les personnes misent, au-delà de 200 000 euros par an, et c'est assez vite atteint comme taux.
Les douaniers ont épluché en réalité plus de 250 lotos, le plus fort étant qu'ils ne sont pas arrivés par hasard chez cet organisateur.
C'est un secteur qui est très concurrentiel apparemment, il y a beaucoup de pratiquants et d'organisateurs de lotos, donc il a été dénoncé par un concurrent qui voulait l'éliminer tout simplement.
L'homme qui se versait 400 euros par loto est totalement ruiné, il est retourné vivre chez ses parents.
Récit de Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL, dans le Grand Est. Vous êtes peut-être en train de boire une tisane détox qui vous permet de mieux dormir. Demain matin, vous prendrez peut-être du beurre qui est censé réduire votre cholestérol. Et bien l'ONG Foodwatch lance une campagne contre une vingtaine de produits aux vertus miraculeuses. L'organisme met en garde contre le flou qui existe sur ces emballages de produits. Jacques Serret, il n'y a en fait aucun contrôle, c'est purement et simplement du marketing.
Oui, infusion, détox ou bonne nuit, thé, joie de vivre ou minceur, mais aussi à smoothie, énergie, pas facile de s'y retrouver.
J'ai l'impression que c'est beaucoup du marketing, je me méfie quand même.
À l'entrée de ce supermarché, Sophie se dit méfiante mais ne comprend pas l'absence de contrôle.
Il n'y a personne qui regarde si ça a marché ou pas en fait, c'est surprenant.
Cela ne manque pas de faire réagir également Anne, venue faire ses courses.
Non, c'est pas normal. Si on annonce quelque chose, théoriquement, ça devrait être labellisé, c'est ça.
C'est pourquoi Foodwatch, qui a mené cette enquête, presse les responsables politiques de prendre des mesures.
De cerise qui permet un effet drainant éliminant, c'est une allégation qui n'a toujours pas été validée.
Mégane Gorbani est l'une des responsables de l'ONG.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les industriels sont dans la légalité de nous induire en erreur, puisqu'ils peuvent utiliser des allégations qui ne sont pas attestées. On demande aux autorités européennes de prendre leurs responsabilités, c'est eux qui sont en charge de valider ou pas des allégations, d'encadrer en fait tout ça, en passant en revue les 2000 allégations qui sont en attente et qui peuvent être utilisées, et en développant aussi des produits spécifiques sur lesquels utiliser les allégations de santé.
Foodwatch qui vient de lancer une pétition en ligne ligne. Une plainte a également été déposée contre un site internet promettant des produits soi-disant anti-cancer.
Reportage de Jacques Serret pour RTL. Le Boeing 737 Max va être équipé d'un signal d'alerte lumineux de dysfonctionnement. Une évolution suite au crash de l'appareil d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts. Boeing est sur le point de finaliser le développement d'un correctif du système anti-décrochage. Les dirigeants européens planchent aujourd'hui sur une proposition de report au 22 mai du Brexit à une seule condition, celle du feu vert des députés britanniques la semaine prochaine à l'accord de divorce qu'ils ont déjà repoussé par deux fois. J-1 avant France-Moldavie, match qui compte, vous le savez, pour la qualification pour l'Euro 2020. Après le titre de champion du monde, les Bleus devront tout de même se concentrer pour affronter les Moldaves. Il ne faut pas qu'ils arrivent trop en confiance. C'est en somme le message que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a voulu passer à ses joueurs.
Moi, je ne vais pas vous faire de dessin. Évidemment qu'on vient ici pour le gagner. On utilise toujours les grands mots, oui, mais prévenir, alerter... Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait dès le lundi, il y a un peu plus de deux ans. On avait commencé aussi en Biélorussie par un 0-0, ce qui ne nous avait pas empêché de finir premier avec 4 points d'avance sur la Suède. Mais les 3 points de demain, ils seront aussi importants que les 27 autres. Il ne suffit pas de le dire, de se le dire, de le répéter. Tout ce qui est détermination, implication, ne pas penser que ça va venir tout seul. À nous de faire, d'imposer et pour obtenir ce qu'on veut.
Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France avec les envoyés spéciaux de RTL en Moldavie, Nicolas Georgerot et Philippe Sansfourche. On termine avec la météo, bien sûr. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir à tous. La fin de la semaine s'annonce très agréable. Toujours ces conditions météo anticycloniques avec du soleil dès demain matin sur la plupart des régions, excepté comme ces derniers jours sur un petit quart nord-ouest. Nous avons toujours un petit peu d'humidité, donc des plaques de grisaille, des nuages bas et des brouillards qui vont se dissiper assez vite avant la fin de la matinée dans les terres. Mais le temps restera encore assez gris très localement sur les plages de la Manche avec des températures encore un petit peu fraîches en matinée. Petite gelée, moins 1 degré à Reims et Grenoble, 3 degrés à Bordeaux, 5 à Paris, 8 à Nice, mais de la douceur dans l'après-midi avec des températures qui grimpent encore. On attend jusqu'à 23 degrés à Nîmes, 22 à Marseille, 21 degrés à Grenoble, 18 à Paris comme à Dijon, 17 à Lille et Nancy et 13 degrés au Havre.
Merci Patricia Charbonnier.